Fréquence Mistral, notre chronique sexothérapie, nous avons le plaisir de retrouver Nahiri Boudet qui va nous emporter dans une réflexion, quand je dis une, dans plusieurs réflexions, dans sa chronique que vous allez animer tout de suite, Nahiri. Bien le bonjour et merci d'être là.
Bonjour Chris, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'antenne de Fréquence Mistral pour ces chroniques mensuelles. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse aborder des sujets comme le manque et aussi le deuil, puisque c'est aussi en vivant un deuil qu'on fait l'expérience du manque, l'expérience aussi d'un nouveau soi. Mais ça, on y viendra petit à petit.
Alors quand on dit manque, c'est-à-dire, parce que moi je vois, admettons, c'est une image que je reçois, un vide. Est-ce que ça peut correspondre ?
Oui, en effet, c'est une très bonne image parce que ce dont me parlent les personnes qui viennent au cabinet, lorsqu'elles ressentent le manque, c'est souvent une impression de vide, comme un trou noir qui les aspire et qui leur laisse rien de suffisamment consistant pour faire face au quotidien. Ça va être des personnes, par exemple, qui vont dire « je pense tout le temps à lui, à elle, et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait. » Parfois, ce sont des personnes aussi qui vont prendre la voiture et aller devant la maison ou l'appartement de leur ex-compagnon ou de leur compagne dont ils sont, on va dire, séparés géographiquement. Ça va être des personnes qui vont suivre les messages WhatsApp et essayer de localiser l'autre. Alors je sais qu'au moment où je dis ça, ça peut faire peut-être un peu sourciller certains qui pourraient penser qu'il s'agit là d'un comportement toxique. Sauf que là, je ne souhaite pas qu'on parle de ça. C'est-à-dire que je ne souhaite pas qu'on soit dans le jugement aujourd'hui et qu'on évalue la pertinence de tel ou tel comportement, mais juste qu'on essaie de se mettre du côté des personnes qui vont expérimenter ce manque insupportable, ce manque d'information. C'est-à-dire que fait l'autre, où est l'autre, pourquoi il ne me répond pas, ce manque donc qui va les atteindre jusqu'au plus profond de leur âme et les empêcher en fait d'être présents à leur vie.
Ce manque, il est induit par quoi ? Qu'est-ce que la personne attend en fait et qui lui manque ?
Eh bien c'est tout là le problème, c'est-à-dire que c'est souvent même pas vraiment défini, mais en tout cas ce manque vient des attentes que l'on a vis-à-vis de l'autre. Attente que l'autre prenne soin de nous. Et qu'est-ce que c'est prendre soin de nous ? C'est pas forcément nous faire des bisous, nous acheter des glaces à la pêche si on aime ça. C'est prendre soin de nous dans le sens qu'il nous rassure. Qu'il nous rassure dans le sens où on a de la valeur, où on est aimé par cet autre. Et comme je vous disais, c'est là tout le problème, c'est-à-dire que plus on va avoir des attentes vis-à-vis de l'autre, déjà plus ça risque de mettre l'autre dans une situation où il risque d'être inconfortable avec ses responsabilités, et plus aussi toutes mes obsessions risquent de se caler sur cette personne.
Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de manques ?
Oui et non, mais il est vrai que quand on parle de manque, ça me fait penser au manque éprouvé dans les problèmes de dépendance. Et pour ça, là, immédiatement, je pense à un film que peut-être beaucoup de mon âge ont vu, mais que je recommande aux plus jeunes ou aux plus anciens s'ils ne l'ont pas vu. C'est le film Requiem for a Dream. Et dans ce film, qui est adapté d'un livre d'Hubert Selby Jr., dans ce film, les protagonistes, qui sont au nombre de trois, donc deux garçons et une fille, font l'apprentissage du manque terrible de drogue, et il s'agit d'héroïne. Ah non, il y a une quatrième personne, c'est la mère d'un des deux garçons qui, elle, devient accro à ce que je pense être des amphétamines, c'est-à-dire des médicaments qui font maigrir, puisqu'elle souhaite perdre du poids. Et on voit tous les quatre tomber dans la spirale de la dépendance, bien sûr, mais surtout de ce manque à être, de ce manque à ressentir, de ce manque à véritablement incarner son propre rôle dans sa vie. Quelque part, on se laisse aller à l'autre ou au produit. Donc, vous me demandiez, est-ce qu'il y a différents types de manques ? Je dirais que c'est en même temps toujours le même. C'est-à-dire, ce que j'appelle manque à être, c'est que je ne me sens pas suffisamment consistant par moi-même. Donc, en effet, c'est ce qu'on peut tous éprouver, en fait, en tant qu'être humain. Et en même temps, ça peut prendre différentes formes, c'est-à-dire s'exprimer dans différents domaines. Le manque de sollicitation, le manque de quelqu'un, le manque de drogue, comme on disait. Et on avait déjà parlé d'ennui, c'est-à-dire le manque, c'est ça que j'appelle le manque de sollicitation, c'est-à-dire le manque de choses qui me font me sentir exister. Le manque de sexualité, évidemment, pas que ce soit un problème en soi, hein. Là aussi on en a déjà parlé, mais en tout cas ça peut être vécu par les personnes comme une sensation de manque insupportable. D'ailleurs, un monsieur qui venait au cabinet m'avait dit une fois, en fait c'est fou parce que plus elle se refuse à moi, plus j'en ai envie. Alors que il y a quelques années, on faisait pas tant l'amour que ça et je n'y pensais pas si souvent.
Nairi, est-ce qu'on peut combler ce manque? Est-ce qu'on peut pallier ce manque?
Alors, on peut toujours trouver des stratégies pour remplacer une chose qui vient combler le manque par une autre. Bien sûr, il y a toujours des choses qui vont avoir un impact moins nocif sur ma santé. Mais quand on commence à parler des personnes, là, ça devient plus délicat. Est-ce qu'on peut véritablement remplacer une personne? Et ça dépend aussi. En fait, je dirais oui et non, parce que ça dépend ce que je recherche avec la personne. C'est-à-dire que si je recherche avant tout de la reconnaissance, comme ça, le fait que ce soit mon ex ou un mec que j'aurais rencontré sur Tinder, le mec que j'ai rencontré sur Tinder pourrait m'apporter une certaine dose de reconnaissance qui pourrait me suffire. Or, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que je peux donner davantage de force au jugement de mon ex-compagnon qui, lui, m'aurait vraiment connu pendant de nombreuses années, saurait vraiment qui je suis, entre guillemets. Et donc, en ce sens, la venue de cette nouvelle personne dans ma vie, donc qui serait ce mec rencontré sur Tinder, son jugement sur moi pourrait ne pas suffire comparé à l'importance que je donne au jugement de mon ex-compagnon qui, lui, me connaîtrait vraiment. Mais si c'est juste une histoire de reconnaissance, à la limite, passe encore. Mais que faire lorsqu'il s'agit de quelque chose de vraiment fort qui existait dans la relation? Et puis là, je pense au deuil. C'est-à-dire que lorsqu'une relation qui m'apportait énormément de sécurité, de joie, de plénitude même, on peut dire, en tout cas par moment, lorsque cette relation s'éteint du fait de la perte d'un être cher, à ce moment-là, ça va être vraiment compliqué de trouver des choses ou des personnes qui viendraient combler ce manque. Parce que à ce moment-là, je vais personnifier le manque par la personne qui a disparu. Et cette personne-là, elle est irremplaçable. C'est-à-dire que je ne vais pas me concentrer sur le besoin, mon besoin de reconnaissance, mais sur la personne. Et c'est là tout le travail douloureux du deuil, c'est-à-dire d'accepter d'exister désormais sans la présence de cette personne à mes côtés.
Et là, justement, la professionnelle que vous êtes, de quelle façon arrive-t-elle à aborder le sujet, à expliquer avec des mots, à fixer des mots et essayer peut-être d'apporter un comble à ce manque, ou alors d'équilibrer peut-être? De quelle façon vous faites?
C'est assez rare, en fait, que les personnes viennent à mon cabinet avec une problématique de deuil à régler. Ça m'est arrivé quelques fois en EMDR, mais souvent, c'est au détour d'une explication. Les personnes vont dire « Depuis que mon père est décédé, depuis que ma mère est partie, quand ma mère et mon frère sont partis, je me suis retrouvée tout seule, et etc. etc. » C'est-à-dire que ça fait partie, c'est présenté comme faisant partie du contexte, mais c'est rarement amené à mon cabinet, hein, je le précise. Peut-être que c'est amené plus directement dans des cabinets de psychiatrie ou de psychologie. Mais je me rends compte, depuis que j'exerce, à quel point en fait c'est fondamental. En fait, cette expérience de deuil, elle est même souvent au centre. La dernière fois, on parlait des différents types d'attachement. Quand je dois faire le deuil d'une relation, c'est une partie de moi qui meurt, en fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est fini pour toujours, mais sur le coup, je ne le sais pas. Sur le coup, je me dis que désormais, oui, peut-être de nouveaux horizons plus joyeux peuvent s'ouvrir devant moi, mais pour le moment, je dois surtout faire face à cette relation qui vient se terminer, et parfois pas de mon fait. Et là, je ne parle même pas de la mort, hein, je parle de cet autre qui aura mis un terme à notre relation. Je travaille avec des personnes, par exemple, qui me disent, mais en fait, tout allait bien dans ma vie, tout allait bien dans notre vie. Et puis, du jour au lendemain, elle a voulu arrêter. Et madame dit souvent, mais en fait, moi, ça fait des années que je lui dis que ça ne va pas. Est-ce que madame s'expliquait mal ou est-ce que monsieur ne l'entendait pas? Peu importe, en tout cas, monsieur le vit comme une véritable déflagration. Donc, ça veut dire que lui, malgré lui, doit apprendre à faire le deuil d'une relation qu'il n'avait pas vue péricliter.
Est-ce que l'on peut vivre avec un manque? Est-ce qu'il faut se construire sur un manque? Est-ce qu'on peut arriver à peut-être trouver la solution à ce manque? Remplacer,
ça va faire partie de ce que j'appellerai les stratégies sur le court terme. Alors, ça semblera peut-être assez négatif aux personnes qui nous écoutent, mais je crois que tout réside en fait dans le fait d'apprendre à composer avec le manque. Car le manque, la mort, la solitude, le fait qu'on se sent incompris, tout ça fait partie de la vie et beaucoup d'entre nous, humains, s'évertuent à essayer de combattre tout ça en permanence. Je travaille avec des personnes qui me disent « Moi, tous mes week-ends sont bookés sur les 2 mois à venir. » Et franchement, je comprends. Enfin, c'est-à-dire, on deal tous comme on peut pour éloigner la sensation de manque de nous. Mais disons qu'à un moment donné, il s'agit d'observer la balance. C'est-à-dire à quel moment est-ce que me battre contre la crainte du manque ou le manque avéré, à quel moment est-ce que ça me prend davantage que le fait de faire face au manque. Et là encore, quand il s'agit du deuil, par exemple, de la mort d'un être aimé, je crois que là, on peut tout simplement rien faire et on passe tous par là. Et je pense que c'est... Ce qu'on pourrait faire au niveau social, c'est reconnaître à quel point ça nous affecte, reconnaître à quel point ça nous abîme, parce qu'on ne vit pas dans une société qui finalement donne tant de place que ça au deuil, face à la mort. Bien sûr, on peut prendre des jours de congé en entreprise, mais ça me fait un petit peu penser aux séries. Vous voyez, des fois, il y a une relation qui se termine ou un mort. Pendant 2 épisodes après, le personnage est affecté et puis après, il reprend sa life. Et bien sûr qu'on n'a pas le temps dans les séries, mais parfois, le deuil, c'est quelque chose qui dure une année, des années. Des années parce que la personne va essayer d'établir des stratégies pour pallier à ce manque. Et puis finalement, s'apercevoir que tout ça, c'est assez bancal. Une relation amoureuse qui se construit sur le deuil mal fait d'un parent, ce sont des relations qui ne vont pas forcément péricliter tout de suite, mais en tout cas, au bout de 10 ans, 15 ans, c'est ce que je vois au cabinet, par exemple, ça peut donner des relations où on se demande mais en fait, je ne sais pas si je suis vraiment à ma place ou le partenaire qui dit « mais il était beaucoup trop sur moi » ou a essayé de me faire jouer le rôle de la réassureuse ou du réassureur en chef alors qu'au final, je ne suis pas sûre d'avoir voulu véritablement incarner ce rôle-là. Donc, il s'agit de l'accepter, mais aussi de travailler pleinement dessus, même si sur le coup, forcément, on n'en a pas envie parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de penser à autre chose.
Le manque se ressent-il à tout âge? Et de quelle façon peut-être, en fait, est-il perçu en fonction des âges? Est-ce qu'on peut le définir, ça?
Oui, je le crois, parce que j'ai travaillé plusieurs fois avec des enfants qui faisaient l'expérience du manque, dans le sens où leur super copine était devenue super copine avec une autre fille, ou un garçon qui va se sentir exclu des jeux collectifs. Alors ce que je dis là, ça paraît peut-être un peu cliché, mais d'une manière générale, c'est ainsi que se produisent les processus de socialisation des filles et des garçons dans la cour de récré au primaire. Forcément, à l'adolescence, ça s'exprime différemment. On a parlé d'addiction, mais je crois que là aussi, on peut parler de réseaux sociaux. Justement, la dernière fois, j'ai écouté une émission sur TikTok. Bon, alors, je tiens à préciser que mes connaissances sur l'application sont assez réduites puisque je ne consomme pas cette application, mais c'était des jeunes qui en parlaient et qui disaient que après avoir scrollé pendant des heures, ben déjà ils ne se sentaient pas très bien finalement, mais surtout avec le fait de poser leur téléphone et de ne plus peut-être consulter l'application, les mettait dans une espèce d'état où ils n'étaient pas très bien, ils ne savaient pas quoi faire. Et puis on a aussi la bonne vieille pornographie dont nous avions déjà parlé. Donc ça peut revêtir vraiment tout un tas d'aspects et ça nous concerne tous. Et je pense que c'est vraiment important d'essayer de normaliser en fait tout le discours autour du manque que nous éprouvons tous, j'insiste là-dessus, à différents moments de notre vie, avec plus ou moins de force, et que ceux qui l'éprouvent ne sont pas des petites mauviettes vulnérables, mais tout simplement des êtres humains qui traversent quelque chose qui les rendra peut-être plus forts, mais aussi par ailleurs plus abîmés. Et étant donné que nous sommes des êtres sociaux, ce qui nous sauve, c'est avant tout les autres, pas parce qu'ils apparaissent comme des bouées de sauvetage, mais parce que ce sont les autres qui continuent à nous faire évoluer en nous-mêmes.
Ce manque, Nahiri, est-ce qu'on peut se projeter, est-ce qu'on peut l'anticiper ?
Bien sûr, on peut essayer de manière illusoire de s'équiper face au manque qui pourrait surgir à un moment ou à un autre. Je travaille avec des personnes qui ont toujours un partenaire sous la manche, par exemple, afin de s'assurer de ne pas être seule si le partenaire officiel venait à quitter la relation ou à moins s'investir, tout simplement. On peut aussi s'équiper face au manque en ayant toujours des stratégies pour occuper son temps, comme on l'a dit. Et puis en même temps, le fait de travailler toute sa vie à s'équiper de stratégies nous empêche, mais en même temps, comme je disais, c'est normal d'essayer de faire ça. Qui ne fait pas ça ? Qui n'essaye pas d'avoir du pouvoir sur sa vie alors que la vie génère, vivre génère tellement d'incertitudes ? Enfin, je veux dire, c'est une évidence que nous essayons tous d'avoir de la prise sur notre existence. Mais en même temps, le fait de s'illusionner dans le fait que nous en aurions sans cesse du pouvoir sur nos vies, ça nous conduit à être plus démunis que jamais lorsque le manque nous surprend. Et lorsque, par exemple, on a un accident et que l'on ne peut plus faire des choses que l'on faisait avant, sur le plan temporaire ou de manière durable, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, on peut manger des séries Netflix toute la journée, mais ça ne nous ramènera pas l'activité, par exemple, que nous aimions pratiquer et qui nous donnait notre dose d'endorphine. Donc là, parfois, on est forcé de le faire et je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas toujours bien prise par les personnes. Lorsqu'il s'agit, par exemple, du manque de confiance, je travaille avec un couple actuellement. Madame a été infidèle, monsieur du coup de fait doit faire l'expérience de ce qu'est le manque de confiance en sa compagne. Et lorsqu'il dit « bon, bah, c'était une belle année de merde » et que je lui lance « oui, mais ça a aussi été l'occasion de rencontrer votre compagne autrement, notamment à travers la thérapie », il me répond que peut-être, mais c'est pas comme ça qu'il voit les choses aujourd'hui, parce que pour lui, c'est encore quelque chose de douloureux. Donc, je comprends tout à fait que les personnes ne soient pas disposées sur le coup, en tout cas, à voir les choses comme ça. Mais en même temps, je pense que c'est salutaire, mais ça, je dis ça de ma position de thérapeute, pas de ma position d'humain comme tout le monde. Mais c'est une bonne chose que nous puissions donc nous remettre aux questions sur notre manière de nous attacher aux autres, notre manière de faire confiance, notre manière d'attendre des autres que l'autre nous réconforte ou nous réassure sans cesse. Donc faire l'expérience du manque, c'est faire l'expérience d'être humain. Mais bon, je sais aussi qu'on n'écrit pas un traité de philosophie quand on vit, donc oui, c'est douloureux. Mais par contre, écrire sur ce manque, parler de ce manque, lui donner de la place, identifier comment ce manque existe dans nos vies et nous conduit à agir de certaines manières, parfois de manières qui sont contre-productives pour nous, là ça commence à devenir intéressant. Et effectivement, bon, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais je trouve que la thérapie, ça devient intéressant pour faire ce travail-là.
Nahiri Boudet, pour les personnes qui aimeraient vous contacter.
Oui, je reçois mes deux cabinets de Gap et de Sisteron. À Gap, je suis présente le mardi sur des très longues plages horaires et tous les autres jours de la semaine, du lundi au samedi, à mon cabinet de Sisteron. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur mon site internet au www.nbsexothérapie.com ou me joindre sur mon téléphone au 07 49 92 31 65. Eh bien, écoutez, je remercie tous les auditeurs de cette chronique et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien.